popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Je vous le dis tout de suite et je préfère jouer la transparence, l'émission qui va suivre va souffrir d'un manque cruel d'objectivité et de recul, au risque de faire grincer des dents tous ceux qui aiment la tempérance et qui pensent qu'en toute chose, il faut raison garder. Ceux-là seront déçus. Nous allons parler pendant une petite heure de Robert Louis Stevenson, un des plus grands, des plus flamboyants raconteurs d'histoire que cette terre ait jamais porté. Voilà, je vous avais prévenu. Stevenson, qui non seulement a écrit des aventures palpitantes, qu'on résume souvent sommairement à l'île au trésor ou à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais en a vécu autant de l'Écosse aux Cévennes, en passant par l'Amérique ou la Polynésie, au bras d'une femme extraordinaire et qu'il voulait épouser contre la volonté paternelle, volonté qui voulait le faire rentrer dans le rang alors que sa vie n'était que bohème et aventures au long cours. Et, prouesse supplémentaire, Stevenson a créé des romans qu'on continue à lire avec les mêmes frissons. Et en plus, il a créé des archétypes qui font frémir même ceux qui ne l'ont jamais lu. Et je ne parle pas que des pirates unijambistes. Oui, il méritait cette magnifique BD, L'étrange voyage de R.L. Stevenson, qui lui rend hommage aujourd'hui, indispensable porte d'entrée sur l'imaginaire du maître d'Édimbourg. Ces deux auteurs, Fabien Groslot et Jérémy Royer, sont les invités de Pop Pop Pop. Et c'est une émission qui s'intitule « Larguez les amarres, moussaillon ». Allez, Pop Pop Pop, c'est parti.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Fabien, bonjour Jérémy, bienvenue dans Pop 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 à vous deux.
Bonjour, oui, bonjour.
Bonjour, une heure entre Stevensoniens, on ne peut pas dire que ça se refuse.
Non, non, c'est très agréable d'être là. Mais...
Moi, Jérémy aussi.
Ah oui, oui, oui. Je vais pas dire non.
Il ne va pas dire non, donc il a dit oui. Moi je sais, mais vous, quand et comment l'avez-vous découvert, ce fameux Stevenson dont je viens de faire un rapide panégyrique?
Alors, ben, c'est par la télé, par le cinéma. Il me semble que j'ai dû voir très petit un film à la dernière séance, là, présenté par Eddie Mitchell. Je ne sais plus exactement la version du film. Et puis, il y avait aussi un dessin animé, style manga, qui était passé dans mes jeunes années et qui m'avait fasciné parce que je revois l'auberge du début de la carte au trésor et la fameuse tache noire qui me hante depuis.
Jérémy, vous allez me dire, bah, c'est Fabien qui m'a demandé de dessiner.
Évidemment, voilà. Au début, moi je suis qu'une petite main, je dessine ce qu'il me demande.
Oui, oui, bien sûr.
En fait, en gros, c'est au début, il voulait me lancer sur le voyage avec mon âne dans les Cévennes.
Les Cévennes, ouais.
Puis après, on est parti un peu plus large, mais voilà. Moi, Stevenson, je l'ai connu vraiment un peu plus jeune, avec L'île au trésor, tout ça, enfin les classiques. Quoi.
Le premier déclencheur aussi, c'est L'île au trésor.
Oui, ouais, quasiment, ouais. La 10, piraterie, ans, L'île au trésor.
Ouais, ouais, bien sûr. Alors, l'association de vos deux talents a produit jusqu'à ce jour cette trilogie consacrée à trois grandes figures du 19e siècle, Audubon, Darwin et Stevenson. Qu'est-ce que vous diriez qu'ils ont en commun, ces trois personnages?
Ouais, ils sont obsédés déjà par leur passion. Pour Audubon, ça va être de dessiner tous les animaux. Darwin, ça va être de découvrir comme ça toutes les formes de vie, de plantes, etc. Donc c'est leur passion, moi je pense, qui les relie. Au pire également le siècle, le 19e siècle, qui est un siècle de transition entre un monde naturel et puis un monde très industriel qu'on connaît. Et enfin, Stevenson, lui, c'est la passion, bien sûr, de la littérature, la passion d'inventer des mondes, d'inventer des personnages, surtout, je pense, c'est ça qui le fascinait le plus. Et puis voilà, c'est trois hommes passionnés.
Et puis, j'ajouterais, Jérémy, vous allez me suivre dans cette démonstration éclatante, un goût certain pour le monde naturel, que vous adorez dessiner.
Moi, j'aurais rajouté aussi le voyage et l'aventure, en fait. Je pense que c'était effectivement un siècle où il y avait des découvertes à faire et c'était vraiment l'attrait pour la nature, l'attrait pour les grands espaces, etc. Et Stevenson, c'était clair que voilà, le fait de voyager partout, l'inspiration de trouver des choses dans la nature, de vagabonder, en gros, c'était ça qui est...
Et ça tombe bien pour vous, mon cher Jérémy, puisque vous aimez la dessiner, cette nature.
Ah oui.
Si mes informations sont bonnes, si mes yeux ne me trompent pas.
Non, clairement. Je refuse que Fabien me fasse des scènes d'intérieur. Et c'est pour ça qu'on s'est associés.
Alors, je parlais il y a quelques minutes d'un des plus grands, des plus flamboyants raconteurs d'histoire que cette terre ait jamais porté. Et là, je finis ma citation, mon auto-citation. C'est pas exagéré, on est d'accord?
Non, pas du tout, c'est très mesuré.
Allez-y Fabien, rajoutez-en un peu.
Bah, je pense qu'il a initié tellement de choses qui sont contemporaines aujourd'hui qu'on retrouve pratiquement dans tous les secteurs de la pop culture à ce moment-là. Hein. Ouais. Mais il est dans le jeu vidéo, on retrouve dans la BD forcément, dans le cinéma c'est monstrueux, enfin etc. Donc il a une œuvre assez réduite finalement si on parle. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a irradié, qu'est-ce qu'il est partout et qu'est-ce qu'il est suivi quoi.
On va en reparler, ça, de sa présence de Stevenson dans la pop culture. Et nous allons prouver tout ce que vous venez de dire dans la suite de ce pop-up spécial avec Charline Roux qui nous rejoindra juste après Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais alors là, dans la version Gainsbourg.
Non, je ne suis pas le Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde. Mr. Hyde. Dr. Jekyll avait en lui un Monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins. Je vous dis que je ne suis pas le Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. Dr. Jekyll.
Hello, Dr. Jekyll.
Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll un jour a compris que c'est ce Monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau du Dr. Jekyll.
Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Serge Gainsbourg, ça c'était en 1968 et aujourd'hui sur France Inter dans ce pop-up stevensonien en compagnie de deux spécialistes, Fabien Grolot et Jérémy Royer, les auteurs de L'étrange voyage de R.L. Stevenson, publié chez Dargo. Et c'est sur ce son gainsbourgien, lui, que Charline Roux, mon Longchon Silver à moi, vient de faire son entrée.
Vous avez un sens de la comparaison qui est quand même fort sympathique, je dois dire.
Bonjour. Charline, posez là votre moignon, que pouvez-vous nous dire pour entrer dans ce club des fans de Stevenson?
Eh ben, quand ces périodes où voyager est bien compliqué, ça vous permettra une évasion à un tarif défiant toute concurrence.
Ah, pas mal ça comme argument.
Oui, c'est ça.
Hein, Fabien, Jérémy, on valide ça?
Ah oui, je valide.
Sans passe, sans rien, on y va.
C'est un voyage sans bouger de son fauteuil. D'accord, on valide. Charline, vous avez fait un étrange voyage vous-même en pays stevensonien en lisant L'étrange voyage de R.L. Stevenson, édité chez Dargo, comme je le disais à l'instant. Que pouvez-vous nous en dire?
Que c'est une ode à l'imagination et de fait aussi un peu à l'ennui, puisque le livre retrace le destin d'un jeune Écossais empêché par une santé des plus fragiles, empêché de se livrer à toute activité hors la rêverie. Et comme ses songes de nuit ou éveillés bénéficient d'une inventivité démente et qu'en plus le jeune homme a un don pour la littérature, on assiste à la naissance d'un écrivain et pas des moindres. Et puisqu'on parle d'une ode à l'imagination, une explication est nécessaire, messieurs, que sont les brownies? Et pour une fois, je ne parle pas de bouffe.
Que sont les brownies?
Ah oui, c'est pas les petits gâteaux, ouais. Les brownies, Stevenson a écrit un article là-dessus où il parle de ces brownies, c'est-à-dire que c'est des petites créatures qu'il rejoignent la nuit dans ses rêves, parce que, je sais pas, il avait un pouvoir bizarre de contrôler ses rêves, Stevenson. Et donc, il avait ces créatures-là, c'est comme des lutins un peu, il disait qu'il écrivait à sa place. Donc, tous les cauchemars, toutes les horreurs qu'il inventait, il disait non, ça c'est pas moi, c'est mes brownies, voilà. Ces elfes, en fait.
Ces petits elfes qui sont représentés sur la couverture de votre livre, on dirait des petits fantômes, des petites créatures qui se promènent comme ça avec des grands yeux. Stevenson a été déjà et souvent magnifiquement adapté en BD, L'île au trésor, Jekyll, Le maître de Ballantrée, d'Hippolyte, effectivement, auquel on repensait à l'instant, mais à ma connaissance, c'est la première fois que l'on consacre une BD à la vie de Robert Louis Stevenson. Une vie qui est en soi une aventure folle, un défi à toutes les conventions, une ode chèrement payée à la liberté. C'est un personnage qui me fait penser à Hugo Pratt, d'une certaine manière, qui a d'ailleurs adapté L'île au trésor. Fabien, ça vous dit quelque chose?
Hugo Pratt, oui. Bah, ouais. J'en ai entendu parler. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir un lien comme ça dans l'errance, dans cet écrivain qui court le monde. Sauf que lui, parce que je crois que Hugo Pratt était plutôt un personnage à la santé robuste.
Ouais,
parce que
c'est exactement le contraire.
Et Stevenson, mais je sais pas comment il faisait, honnêtement. Moi, j'ai déjà du mal à venir à Paris avec le Covid dans le coin. Lui, il voyageait malade, il voyageait presque mourant jusqu'au fin fond des États-Unis, quoi. Donc, je sais pas comment il faisait pour voyager avec cette santé-là, mais une volonté de faire, quoi.
Et tu es tuberculeux, hein.
Oui.
Et dans l'avant-propos du livre, Fabien Groslot, vous dites « N'écrivez jamais sur un écrivain et surtout n'écrivez jamais sur Robert Louis Balfour Stevenson ». Dans la postface du livre, vous ajoutez un « How dare you ?». Quelle présomption de s'attaquer à une telle figure de la littérature quand on est de simples auteurs de cet art mineur que serait la bande dessinée ? Est-ce qu'on doit en déduire que l'aboutissement de ce projet a été semé d'embûches pour l'un comme pour l'autre ?
Non, mais je sais qu'il y a une communauté
puristes.
De fans de Stevenson est absolument énorme. Voilà. Donc c'est juste pour protéger ma vie, en fait, que j'ai fait ça.
J'essaie d'avoir des mots et des courriers un peu.
Ouais, voilà. Je suis personnellement très fan de Stevenson et j'ai adoré ce livre. Donc,
en vrai, c'est parce que quand j'ai commencé, moi j'y vais souvent comme ça, même Darwin, je me suis dit, tiens, Darwin, ça va être sympa. Je me suis même pas rendu compte que j'attaquais le plus grand scientifique du monde. J'y vais un peu par naïveté, puis après, je prends la documentation en pleine figure, on va dire. Et quand il a fallu lire tout ce qu'il a écrit, enfin, j'ai pas lu énormément, mais quand même, il y a énormément sur Stevenson, il y a des films, il y a tout un tas de choses. Donc il fallait quand même. Je me suis rendu compte qu'on était audacieux de tenter notre propre version à nous, quoi.
Voilà, c'est bien, ça. De l'audace, toujours de l'audace. Ouais.
Et Jérémy Royer, vous disposiez de photos de la famille Stevenson pour trouver les traits de vos personnages, idem pour les décors existants, mais comment est-ce qu'on s'y prend pour trouver la manière d'illustrer toute la partie rêvée, fantasmée, notamment ces brownies dont on parlait il y a un instant?
On s'inspire un peu de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, un peu à droite à gauche. Après, il y a un outil magique qui s'appelle Internet, on trouve plein de choses pour se documenter, parce que évidemment, si on a la possibilité de voyager dans les lieux et les endroits et les pays où Stevenson a été, c'est encore mieux. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais sinon, on s'inspire un peu de ce qu'on a déjà engrangé un peu ailleurs. On m'a déjà dit un peu que les brownies, justement, ressemblaient un peu aux fantômes de Princesse Mononoke.
Ouais.
Mais bon, ils sont blancs, mais ils ont un peu la forme. Alors, au début, quand j'ai commencé à les dessiner, je pensais pas du tout à ça. Ils étaient beaucoup plus allongés, beaucoup plus fins. Et après, voilà, je sais pas. Cette inspiration, elle vient aussi peut-être un peu de Stevenson, de cette dualité qu'il y a dans tous ses romans, justement.
Constante.
Et que, voilà, ouais. c'est constant. Et
vous
voilà,
êtes visité quand vous dormez, vous voulez dire?
Non. Enfin, si, je dors avec ma compagne à côté, mais... Enfin bon.
Robert Louis Stevenson, souffrant de problèmes de santé, a été bercé par les récits d'aventure que lui racontait sa nourrice. Est-ce que ça a été votre cas, tous les deux? Est-ce que, si vous avez eu des nourrices, bien sûr. Je parle des problèmes de santé et les récits d'aventure de Stevenson en plus, hein, bien sûr, pardon.
Non, pas de nounou qui me racontait les histoires, mais Tintin, ouais, beaucoup de lectures comme
ça. On vous racontait des histoires quand vous étiez petit ou pas?
Oh, je ne me rappelais plus, oui, sûrement.
Comment ça, vous ne rappelez plus?
Je suis sûr que ça fait trop longtemps.
C'est la force de l'âge.
Oui. Ma mère, oui, sûrement.
Et vous, Jérémy?
Moi, non, on ne m'a pas trop raconté d'histoires. Je n'étais pas un grand lecteur, étant petit. Mais je me faisais des histoires, moi, je traînais beaucoup dehors. J'ai pas habité une maison de campagne ou un truc qui a procuré une nature à proximité, mais voilà, mon père m'a souvent emmené en randonnée très jeune. Ouais. Et enfin voilà, il y a cette histoire que je me raconte quand je me balade. Et je m'invente des mondes aussi. Des
trucs, voilà le côté stevensonien. Oui. Sans les problèmes de santé, il n'y aurait pas eu de Robert Louis Stevenson au sens raconteur d'histoire, à votre avis, ce qu'évoquait Charline tout à l'heure?
Oui, je pense clairement que c'est quand il était enfant, il était prisonnier de sa maladie, donc il a été contraint un peu de s'évader comme ça dans des mondes imaginaires. Et après, plus tard, la maladie l'a contraint aussi à, bah, je sais pas, à affronter la mort, qui est quand même un des sujets principaux de son œuvre. Donc, ouais, elle est omniprésente dans l'ensemble de son œuvre, en fait, ouais.
Vous avez choisi d'ouvrir ce roman graphique par la mort de Stevenson dans les îles Samoa, où il avait choisi de vivre. Pourquoi commencer par la destination finale de cet étrange voyage ?
Choix de scénariste.
Non, mais ce qui est très malin, pourquoi en fait, ce qui donne une narration des plus intéressantes, mais c'est un vrai choix.
Je pense qu'on arrive sur la mort, ça fait sens. Enfin voilà, c'est un départ. Et il y a aussi sa femme, Fanny Stevenson, qui est très important. Et c'est un pilier. Enfin, c'est vraiment quelque chose, quelqu'un de très important dans sa vie. Et on bascule assez vite sur elle. Et je pense que ça raccroche à quelque chose, cette force qu'il y avait entre eux, etc.
Très bien. Vous avez
je voulais montrer les Samoa aussi dès le départ, parce qu'il a fini sa vie aux Samoa, et je trouvais ça assez beau. En plus, je suis tombé sur le texte. Je sais plus le nom. Alors, par contre, c'est un titre latin. Mais bon, peu importe, un texte de Stevenson que j'utilise un petit peu pour dans l'introduction au livre, et je trouvais que ça collait très bien parce qu'il parle du cosmos, il parle de la fin de vie, etc. Et voilà, donc ça mélangé, et puis l'histoire de l'enterrement de Stevenson est super belle, c'est-à-dire qu'il s'est tellement bien intégré aux îles Samoa que les Samoans l'ont porté, ils ont taillé à la machette une route pour l'emmener au sommet de la montagne qui domine sa propriété là-bas. Donc ils étaient, je sais plus, 400 comme ça à porter le cadavre de Stevenson. Donc c'est à la fois bien triste, hein, c'est sûr, mais c'est aussi une belle histoire, je trouve. Voilà, ce dernier voyage, quoi.
Ibis cum volubilis in tut missa est. C'est ça l'expression latine que vous cherchiez.
Waouh !
Allez en paix, ma fille.
Puis de science aussi, c'est génuflexion avant. Votre étrange voyage couvre toute la vie de Stevenson avec quelques ellipses, hein, sinon il fallait faire un livre en à peu près 12 tomes.
Ouais, déjà,
et c'est le livre Essai sur l'art de la fiction, des articles de Stevenson mis en forme par Michel Lebry, qui a été votre principale source d'inspiration. Est-ce que la création, c'est précisément votre sujet, l'angle de cette étrange biographie ?
Ah ouais, clairement, parce que même sur Audubon, sur Darwin, etc. Et je voulais, en m'attaquant à ce sujet-là, lui piquer ses secrets, en quelque sorte. Hein. Je voulais devenir aussi bon que lui, quoi. Et, bon, c'est raté, mais tant pis. Et ouais, il y avait un côté comme ça, mais comment on écrit, en fait, tout simplement, comment lui, il a pensé, parce qu'il a aussi, c'est pas que des pirates, c'est aussi une théorie de la littérature, Stevenson. Donc c'est, moi, ça m'intéressait drôlement d'essayer d'aller creuser dans ses secrets de fabrication, en fait.
Qu'est-ce qui reste quand on a passé quelques temps de sa vie, comme vous l'avez fait tous les deux, messieurs, à fréquenter Robert Louis Stevenson de manière aussi intime? Qu'est-ce que vous en retenez, vous deux?
Voilà.
Ah, c'est la question, ça.
Alors c'est toujours il y a aussi un temps de promotion, de en tant que dessinateur. Mm-hmm. Pour ma part, je vais surtout sur les salons, etc. Et en fait, ce qui reste, c'est un partage avec les lecteurs, en fait. Et il y a quelque chose de il y a des lecteurs qui arrivent et qui adorent Stevenson aussi et qui nous donnent des anecdotes et on partage d'autres choses aussi et je crois que c'est ça et je pense que ça va rester encore longtemps et voilà, ça va pas être un oubli direct comme ça.
On va pas passer au sujet suivant comme ça.
Oui, voilà,
si de rien n'était. Et vous, Fabien, quelle trace il laisse en vous?
Ah ben moi j'écris beaucoup de scénarios, donc les traces elles sont assez profondes, hein, parce que par exemple il a une théorie sur les lanternes, il dit quand on écrit un personnage de salaud, il faut penser à la lumière intérieure, il faut penser à ça, à ce qu'il a en lui qui le fait rêver, même ce personnage là et c'est hyper intéressant de voir qu'on doit aller plus loin que peut-être le personnage comme ça. Et puis il écrit aussi des choses sur un lieu, par exemple. Bah, il dit, je sais pas, cette montagne, elle est glauque. Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? Alors, il faut à la fois accompagner le lecteur vers ce qu'il a envie de lire, mais aussi le tromper, l'essayer de détourner le truc et puis essayer de proposer autre chose. Et l'île au trésor, par exemple, elle est que comme ça, des contre-pieds tout le temps. Ça, je trouve ça vachement bien et ça me... Ouais, dans le métier de scénariste de BD, ça m'aide, quoi. Ça, en tout cas, j'y pense.
Ouais. Bien, pas tous tes secrets de scénariste.
On va en faire un livre.
Vous avez bien saisi Stevenson.
Et ce qui en fait aussi un personnage singulier, c'est que même dans l'adversité, Stevenson ne choisit pas la facilité. Hein, des choix de vie entraînant de gros soucis financiers, aussi l'opprobre des siens, de l'Église, par ses écrits et par ses choix de vie, ou en tout cas de cœur, puisqu'il était fou amoureux d'une femme mariée. Si vous aviez pu intégralement inventer ce récit, est-ce que vous auriez osé lui ajouter tant de péripéties?
Oh ben non, clairement, c'est pas possible. Enfin, encore, j'en ai enlevé. Hein.
Oui.
Je sais qu'il va dans les montagnes du Canada. Bah, par exemple, pour sa lune de miel, il choisit une mine désinfectée pleine de crotales.
Donc c'est un peu comme ça, nous tous.
Oui. Ah oui, il a pas fait ça.
C'est quand même fou. Ouais, on aurait, je pense qu'on aurait dégonflé un petit peu la barque, essayé d'en mettre moins. Ouais. Non, c'est impressionnant.
Ouais. Jérémy, vous excellez à représenter cette nature hein, dont on parlait il y a quelques instants, et une nature qui avait une importance capitale pour Stevenson. Et moi, j'adore votre parti pris de le représenter lui avec des traits très enfantins, comme si l'enfance et l'émerveillement de l'enfance ne l'avait jamais quitté. Mais c'est comme ça que vous l'avez perçu ?
Un petit peu, parce que en fait aussi on commence un petit, après la mort de Stevenson dans l'album, on démarre avec sa jeunesse aussi. Et oui, je crois que il y a ce côté un peu enfantin. Il a toujours gardé une affection profonde pour sa nourrice justement. Et j'ai voulu le représenter un peu en général sur tous les albums. Je me base sur une photo. Par exemple, pour Audubon, c'est pas une photo, mais une peinture, et Darwin aussi une photo. Et du coup, je reste sur une photo. J'essaye de trouver les traits qui me parlent. Et après, voilà, pour Stevenson, c'est pareil. J'ai commencé à dessiner un truc un peu léger, que ce soit pas trop, parce que on change. Il est mort à 44 ans, c'est assez jeune. Et voilà, on pouvait pas lui mettre une barbe ou des choses comme ça. Donc, non, j'essaye un peu de garder son côté enfantin. Ouais.
Et c'est très réussi. Ça s'appelle Merci. L'étrange voyage de R.L. Stevenson. C'est signé par Fabien Groslot et Jérémy Royer. Et c'est édité chez Dargo. Ce pop-up spécial Stevenson Compagnie continue, je veux dire, en compagnie de nos deux invités. Après Dr. Jekyll et Mr. Hyde, que diriez-vous d'un petit shot de Mrs. Hyde? Pour changer, les deux premiers albums des Pretenders viennent d'être republiés avec plein de bonus tracks, plus épatants les uns que les autres. L'occasion de réécouter un de mes morceaux préférés, Stop Your Sobbing.
It is time for you to stop all of your sobbing. Yes, it's time you to It is time for you to laugh.
Stop Your Sobbing, c'est écrit par Ray Davies, magnifié par Chrissy Hyde sur le premier album des Pretenders qui vient juste de ressortir dans une version augmentée.
C'est pas son nom, c'est Chrissy Hyde, pas Hyde.
Oui, ben ça va, on va pas chipoter pour un N non plus.
Okay, bah, faites comme vous voulez.
Hyde. Bon. Et aujourd'hui, on vous emmène donc faire un étrange voyage dans le monde de Robert Louis Stevenson, pour paraphraser le titre de cette excellente BD dont nous parlons depuis le début de l'émission, L'étrange voyage de R.L. Stevenson, publié chez Dargo.
Alors certes, Stevenson est le personnage central de ce livre, mais un autre se dessine à ses côtés, un personnage à l'importance primordiale pour l'œuvre du maître, son épouse Fanny. Elle l'encourage autant qu'elle le lit et lui livre parfois des critiques assez assassines, notamment sur la première version qu'il lui fait lire de, bah justement, de Mr. Hyde. Sans elle, l'œuvre de Stevenson aurait-elle seulement existé?
Je pense pas. Enfin, moi, mon intime conviction, c'est que c'est non. Et je pense qu'elle a été, elle avait des relectures assez importantes sur ses œuvres. Il y en a qui disent qu'elle a écrit certaines parties, même. On le met dans la BD, elle brûlait certaines parties, elle était presque un peu directive.
Non, c'est lui qui brûle.
C'est lui qui brûle le manuscrit de Jekyll.
Lui est déçu que Fanny
ait pas
de
son
regard. Disons même pas que c'est pas qu'elle n'ait pas aimé, c'est qu'elle émet quelques doutes et donc.
Et il l'aurait écrit en 3 jours.
C'est un cahier plein de parfaites sottises, lui dit-elle en lisant le premier manuscrit.
Pas très aimable.
Non, mais en même temps, c'était peut-être vrai.
C'est peu dire qu'il a marqué la pop culture, ce Robert Louis Stevenson. Vous le disiez très bien tout à l'heure, Fabien. On le retrouve en BD, au cinéma, en série, manga. On a écrit des romans à partir de ses personnages, comme le Long John Silver de Björn Larsson, que je vous conseille vivement si vous ne l'avez jamais lu. Que sais-je encore? Qu'est-ce qui fait de Stevenson une source d'inspiration aussi intarissable dans ce monde de la pop culture?
Je pense que c'est la modernité de ses écrits, en fait. Oui. Je pense que c'est quelque chose de... J'ai relu Dr. Jekyll et Mr. Hyde il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Et c'est tellement moderne. Enfin, voilà, on peut transformer ses écrits, les écrits de Stevenson dans de plusieurs façons.
Oui, transformer comme Jekyll se transforme.
Voilà, ouais, exactement.
Ouais. Nous parlions du docteur Jekyll et Mr. Hyde, hein, qui date de 1885. J'ai évoqué Moi, l'île au trésor, qui a été publié en 1883, et le succès de ces titres qui ne s'est jamais démenti. Qu'est-ce qui en fait, alors c'est la même question que la précédente, mais qu'est-ce qui en fait des livres aussi cultes?
Ben, je pense qu'il y a aussi les personnages, parce que effectivement il y a les aventures, il y a les lieux comme ça, puis tout le démarrage de l'île au trésor en Angleterre, ça est extrêmement puissant. Mais moi, franchement, j'ai une fascination et pour Ben Gunn, donc qui est le naufragé oublié, le pirate oublié, comme ça, qui, moi, quand j'étais petit, il était assez fascinant, ce personnage là qui est tout hirsute, qui vit dans sa grotte et qui attend un peu de se venger et qui a trouvé le trésor. Et puis Long John Silver, forcément, qui est à la fois effrayant, mais aussi un affabulateur de première, qui est extrêmement charmant aussi. Moi, je pense que ces personnages, ils sont pour beaucoup. Et après, il y a il décrit quand même des côtes écossaises extrêmement dangereuses, des récifs acérés. Il y a tout pour faire rêver, en fait, là-dedans. Et faire rêver et faire peur aussi.
Et puisque vous parliez, Jérémy, de la modernité absolue du propos et de Jekyll en particulier, en 2007, le Britannique Stephen Moffat, qui était déjà à la manœuvre sur Doctor Who et par la suite sur Sherlock, proposait une mini-série qui plongeait le personnage double dans un univers ultra-contemporain. Le docteur Tom Jackman abrite dans un même corps un père de famille plutôt discret et sympathique et Hyde, un personnage extrêmement violent. Pour le cacher, Jackman a signé un pacte avec son double et embauché une infirmière.
I'm not sure how strong he is.
He's stronger than you?
Yes.
Strength isn't usually a variable.
I'm sorry?
In cases like this, you don't get extra muscles or anything.
There aren't any cases like this.
Il n'existe aucun cas comme celui-là, sauf dans les fictions, bien sûr. On peut dire que la figure Jekyll Hyde est la matrice de pas mal de personnages à personnalité multiple. Ben, je pense notamment aux comics, en fait.
C'est ça.
C'est là le personnage original.
Le super-héros Kent, Superman, dans les séries aussi, effectivement, je pense à Dexter même.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'un an après, en France, Maupassant publiait Le Horla, il y avait quelque chose quand même déjà qui travaillait sur la dualité, mais c'est vrai qu'à partir de Jekyll, il y a eu toute une flopée de personnages qui n'étaient pas tout seuls, quoi.
Non, c'est ça. Oui. C'est,
Ouais, puis moi, je pense surtout que ça révèle, ben voilà, ça parle de nous, de chacun d'entre nous, avec sa part sombre et sa part violente quelque part. Donc, ouais, c'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est qu'on le dit pas, mais on s'y retrouve un peu dans ce Mr. Hyde. Enfin, n'ayez pas peur de moi. Hein, mais...
Tu vois, c'est ça, tu me fais peur, là.
Tout le monde s'éloigne.
Vous avez une part sombre, une part un peu violente,
forcément,
Fabien?
Forcément, comme tout le monde.
Il est en train de se métamorphoser.
Et je recommande la mini-série si vous ne l'avez pas vue.
Bon, je ne vous ai pas caché ma passion pour Stevenson. J'en parle depuis 16h04.
En 12 revanche, ans. Parce que...
12 ans. En revanche, vous ne connaissez peut-être pas ma passion pour Eddie Izzard. Alors quand Eddie Izzard s'empare de Stevenson, ben je suis aux anges et ça donne ça.
When the time is right, we're going to take this ship and the treasure on that island, which is ours by right.
You do not trust the men?
I don't know the men.
Stop that! What are you doing?
Sharpen your blades, lad. It's time to play the Reaper.
I'll make a fine gentleman, Jim Hawkins.
Alors, c'était la bande-annonce de L'île au trésor, téléfilm avec Eddie Izzard en 2012. Vous connaissiez cette adaptation, non?
Ah, oh non.
Ah, ben, il vous en reste, je vous promets.
Je vais être puni.
Non, mais c'est un univers, Stevenson, les adaptations de Stevenson. En revanche, évidemment, vous connaissiez, comme nous tous, cette adaptation signée Walt Disney, c'était en 1950.
Que le diable t'emporte, long jeune Silver, fais attention, j'ai pas du tout peur de toi.
J'aime pas les fortes têtes, Georges, mais il est temps que tu saches qui est capitaine à bord de cette goélette. Et qui commande en réalité cette expédition?
Un capitaine qui sera un capitaine n'aurait pas besoin d'un second à ses trousses et qui fourre son partout.
Si tu touches un cheveu de la tête de Monsieur Varro, tu auras affaire à moi.
Comment échapper à l'influence de Robert Louis Stevenson? Je vous voyais frissonner tous les deux. C'est la voix, c'est quoi?
Le grand détournement, peut-être.
Fabien, Jérémy, je ne sais pas si vous avez travaillé en musique, mais c'était possible avec Jekyll and Hyde, le musical.
You know who I am?
Yes,
yes.
Yes, I know exactly who you are. Eminent churchman and philanthropist, friend to those in need, particularly of the female gender, and you're still tender.
Let me pass
who
you
does more? Not know Rupert? 14.
Bishop of Blazing Spoke!
Oh,
I fail city is most distinguished, degenerate, obscene, corrupt, and malignant. Hypocrite!
Animals trapped behind bars at the zoo need to run rampant and freeze.
Extrait du musical Jekyll and Hyde, ça c'était en Angleterre, et nous avons parlé.
C'est pas Starmania.
Pardon?
C'est pas Starmania.
Non, c'est pas Starmania. Et nous avons parlé de Stevenson dans la littérature, dans la musique, dans les séries, mais il existe également une adaptation en jeu vidéo de L'île au trésor.
C'est l'écriture de Long John. Ceci est mon testament. Moi, Long John Silver, j'ai eu la chance d'accroître ma fortune durant les dernières années de ma vie. Je veux que ce bien profite au seul ami loyal que j'ai jamais eu, Jim Hawkins.
Jim Hawkins. C'est à ce tour d'horizon dans la pop culture, un rapide tour d'horizon, s'ajoute donc L'étrange voyage de R.L. Stevenson, la BD signée Fabien Groslot et Jérémy Royer, qui est édité chez Dargo et qui est une pure merveille. Bravo messieurs.
Merci.
Ne bougez pas, j'en ai pas fini avec vous. Pop break dans ce pop, il est 16h37, c'est l'heure des pop news.
La saison des fêtes approche et les plateformes de commencer à dégainer leurs programmes dédiés. Et comme c'est une période propice à la nostalgie, autant jouer la carte des vieux pots, meilleure soupe, etc., etc. Voici donc « Maman, j'ai raté l'avion », ça recommence. La famille de Max part au Japon pour les vacances, mais une histoire de dispersion sur des avions différents et probablement de famille un poil étourdi le laisse seul à la maison.
Ma famille s'est tirée à Tokyo et je me retrouve carrément tout seul.
Est-ce que tu te rends compte qu'à cause de toi, j'ai mon fils de 10 ans, tout seul, à la maison. T'as simplement supposé que Max était dans le premier avion.
Écoute, on s'est pas recompté.
On nous a signalé deux personnes suspectes du côté du 36 Lincoln Avenue.
Je veux pas atterrir en tôle. Je tiendrai pas 30 secondes en pop-G.
Quand t'arrives en tôle, c'est là qu'on te colle.
Aucun de nous deux ne finira en tôle.
Ne vous inquiétez pas pour Max, il est très malin. Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Ce sera dès vendredi sur Disney+.
«
Excellente nouvelle pour les fans de Macca, qui ne l'est pas. Et pour les geeks du vinyle, Ferdman Records, le label labo de Jack White, vient de mettre en ligne un court documentaire consacré à la fabrication et au pressage du vinyle de McCartney Free, en édition limitée. Concept unique, application maximale de Macca comme il se doit, le petit documentaire revient sur la genèse de ce produit d'exception, avec tous ceux qui sont intervenus dans le processus de fabrication. C'est à retrouver sur la chaîne YouTube de Ferdman Records, et on vous glisse le lien sur le compte Twitter 3615 popopop.
Et voici la meilleure association de malfaiteurs de la semaine, du mois, de la saison. Yarol Poupeau, le guitar héros, et les rockers nantais de Kokomo. L'album de Yarol est dispo, il s'appelle Hot Like Dynamite. Il est très recommandable et Yarol en distille des extraits en live depuis le studio Motorbass à Paris. Cette semaine, ça pourrait bien être le tour du titre avec Kokomo, le bien nommé The Detonator. Et pour fêter tout ça en live, ce sera le 17 novembre à Paris, à la Maroquinerie.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Ma petite Charline.
Le Grinch, mais je vois pas pourquoi.
Mais
du coup.
Non, le perroquet de John Silver.
Ah,
oh,
ouais.
Oui, c'était lui. Bon, merci Charline. Fabien Groslot, Jérémy Royer, dans la suite de Pop, 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 nous parlerons de...
Au début, c'était le début.
Est-ce qu'aimer, ça s'apprend? Et si oui, comment?
Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites?
Du groupe The Liminianas, avec Bertrand Belin et Laurent Garnier, du film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, du podcast Le cœur sur la table, et de l'auteur américain Kirk Wallace Johnson. Tout ça, ce sera juste après Wake Me Up, c'est le tout nouveau morceau du groupe de rock anglais Falls.
Wake me up.
Alors, Wake Me Up, j'ai compris, ça réveille, et c'est pas la peine de me hurler comme ça dans le casque, j'ai compris, les amis de Falls. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors ce son, c'est le son du D20 qui roule sur la table lorsqu'on joue au jeu de rôle. Expliquez-nous le principe de ce D20 et en quoi il vous évoque la pop culture, mon cher Jérémy Royer. Alors, je vous écoute.
Ouais, c'est pas mal lié à l'enfance. J'ai joué assez jeune. Enfin voilà, comme d'habitude, hein, c'est le grand frère. Enfin, j'ai pas de frère, mais c'est le grand frère d'un copain.
Qu'est-ce qu'il raconte
Qui nous présente le jeu de rôle, les trucs comme ça.
Un frère imaginaire, peut-être.
Pardon.
Donjons et Dragons.
Donjons et Dragons, ouais. De base. On commence par celui d'il y a 30 ans. Et j'ai arrêté pendant un petit moment. Enfin voilà, les trucs de l'adolescence, on va voir ailleurs, on va faire autre chose. Et j'ai repris il n'y a pas longtemps, et pour moi, c'est quelque chose de magique. C'est pas mal lié à Stevenson aussi, dans le sens où il y a de l'imaginaire, il y a plein de choses à faire avec le jeu de rôle. Et c'est une sorte de modernité aussi, et je crois que c'est pas mal intégré à la pop culture. C'est devenu moins ringard que ce qu'on pensait il y a 30 ans. Enfin voilà, des types dans une cave.
Le D20, donc. Vous, Fabien Groslot, ce qui vous évoque la pop culture, c'est ce son-là.
Monty Python's Flying Circus.
Le Hits de Michael Palin au début de la série Monty Python Flying Circus. Expliquez-nous ce choix.
C'est étrange, mais je trouve que déjà je pensais à Ben Gunn parce qu'il sait en fait la séquence et qu'il sort de c'est Michael Palin donc qui est en
lui-même un grand voyageur.
Voilà, qui est en naufragé, qui a ses fringues, c'est des locks, et il sort de la mer. Des fois, ça peut mettre des plombes avant qu'il arrive jusqu'à dire son mot, it's, et puis c'est parti. Après, on sait qu'on va aller dans le délire n'importe quoi, et je trouve que c'est la série la plus pop culture qui existe au monde, parce qu'ils peuvent parler de Socrate, ou d'un flan qui gagne Wimbledon au tennis, par exemple. Moi j'ai appris l'anglais là-dedans, donc du coup j'ai du mal. Mais...
Bien, restons dans cette pop culture, dans votre pop culture à vous deux. Il est 16h46, c'est l'heure de votre pop list, une pop list croisée. Fabien, Jérémy, nous vous avons demandé de nous conseiller un livre, un film, une musique et une série. Fabien Groslot, votre livre du moment, c'est Le voleur de plumes de l'auteur américain Kirk Wallace Johnson. Charline, je sais que c'est osé, mais un homme qui a écrit un livre sur Audubon, le génial naturaliste, et qui s'intéresse aux plumes d'oiseaux rares. Coïncidence peut-être ? Je ne crois pas.
Un soir de juin 2009, un jeune musicien virtuose Edwin Rist, destiné à une brillante carrière, commet un étrange casse. Après s'être produit à un concert de la Royal Academy of Music à Londres, il s'infiltre discrètement dans le musée d'histoire naturelle pour voler des centaines d'oiseaux entreposés là depuis plusieurs décennies.
Alors, avant de nous expliquer ce choix, pouvez-vous nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît, Fabien ?
Alfred Russel Wallace se tenait sur le pont arrière d'un navire en flammes à plus de 1100 km des côtes des Bermudes. Les planches lui brûlaient les pieds et des volutes de fumée jaune montaient à travers les interstices du pont. La sueur et les embruns lui collaient à la peau tandis que le baume et le caoutchouc bouillonnaient et sifflaient dans les cales. Il sentit que les flammes allaient bientôt traverser le pont. L'équipage du Hélène s'agitait frénétiquement autour de lui, jetant biens et provisions dans les deux petites chaloupes que l'on descendait le long des flancs du navire.
Le voleur de plumes de l'auteur américain Kirk Wallace Johnson. Pourquoi avoir choisi la plume de ce voleur de plumes, mon cher Fabien ?
Je trouve que c'est une histoire extraordinaire, moi, que j'ai découvert il y a pas très très longtemps. Donc, de ce jeune virtuose de la flûte qui se met à voler un musée anglais pour récupérer les plumes d'oiseaux qui ont été, justement, là, ça parle de Wallace, donc, qui ont été récupérées 100 ans avant par Wallace, mais pas tellement par souci de collection. Le but de tout ça, de ce vol, c'est de monter des mouches pour pêcher le saumon. Et même pas pour pêcher, parce que d'ailleurs, ces mouches-là, ils les utilisent pas, c'est une œuvre d'art, ils font des mouches. Mais il y a une règle, les règles ont été imposées au 19e siècle, et il faut des plumes d'oiseaux rares pour faire des belles mouches. Donc après, on rentre dans un monde de collectionneurs de plumes interdites à la vente, etc. Donc on va dans le trafic sur Internet, on parle aussi de la nature, bien sûr, de la disparition des oiseaux. Comment, par exemple, pour les chapeaux au 19e siècle, on a massacré des centaines d'espèces. Donc cette histoire est folle, et tout d'un coup, on grève des tas de thèmes écologiques. Et voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ce livre vraiment fascinant. Quoi.
Le voleur de plumes de Kirk Wallace Johnson. Oui.
Effectivement, il regroupe énormément de thèmes moi, que j'ai abordés dans mes livres. Donc ouais. Pouvait que me toucher.
Jérémy Royer, à vous. La série que vous nous conseillez est une série de podcasts. Et vous savez comme nous aimons les podcasts ici à Pop Pop Pop. Et c'est le cœur sur la table de Victoire Tuaillon. Charline, faut-il s'attacher plus au mot cœur ou au mot table dans ce titre?
Devinez. Je peux juste vous dire que c'est un programme qui vise à raconter et réinventer nos relations amoureuses, nos liens avec nos amis, nos parents, nos amants.
Un jour, on va mourir. Et un jour, je vais mourir. Et à la fin de notre vie, ce qui nous aura rendu le plus heureuse, le plus heureux, c'est d'avoir eu des relations riches et profondes avec les autres. Alors ma question c'est, comment on fait? Est-ce qu'aimer ça s'apprend? Et si oui, comment?
Extrait du podcast Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon, c'est le choix de Jérémy Royer. Alors, parlez-nous de ce podcast. Plutôt que d'une série, d'ailleurs.
Oui, ouais. Voilà. Au début, je cherchais une série. Et j'en regarde pas beaucoup, ou un peu moins en ce moment. Et j'écoute pas mal de podcasts, hein, justement. Et je me suis dit, voilà, Le cœur sur la table, ça me parle plus. C'est même quelque chose d'intérieur. Ouais. Ça me parle, moi. Je pense aussi à ma compagne. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'assez nouveau, d'assez... je sais pas, il y a quelque chose qui en ressort. Et du fait que ce soit un peu moderne, que ce soit justement sur l'introspection, sur comment on a ce regard sur l'amour, est-ce qu'on peut changer notre regard à notre compagne ou à nous-mêmes, etc. Donc moi, je trouve ça génial.
Enfin, ouais. Très bien, Le cœur sur la table, le podcast de Victoire Tuaillon. Jérémy, je reste avec vous. Poursuivons avec votre coup de cœur cinématographique du moment. Ce coup de cœur, c'est les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Nils Schneider, Vincent McCain. Charline, on fait comme on a dit? Dites-moi ce qu'on a fait.
Avec plaisir. Daphné, enceinte de 3 mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Ce dernier s'absente et Daphné accueille Maxime, son cousin qu'elle n'avait jamais rencontré. En attendant François, Daphné et Maxime font connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes.
Je veux pas que tu t'imagines qu'une relation durable et officielle est possible entre nous.
Ah bon? Pourquoi?
Je suis déjà mariée.
T'es mariée?
T'es avec quelqu'un, je peux pas.
Même un baiser?
Même un baiser, c'est un principe. Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il à ce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de l'accompagner de l'autre?
Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites?
L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement.
Moi, Jérémy Royer, c'est un peu une variation du podcast Le cœur sur la table, si je ne m'abuse.
Exactement, c'est les relations humaines qui m'intéressent aussi.
Et quoi dans ce film d'Emmanuel Mouret?
Ben, j'ai vu pas mal de films d'Emmanuel Mouret et j'ai toujours été intrigué justement par la façon dont il raconte les choses et la façon dont il les met en scène aussi. Et là, dernièrement, sur ce film, j'ai compris une chose, c'est qu'il y avait énormément de mélanges. Il y avait du théâtre, il y avait de la photographie, il y avait du roman, enfin, dans ces films. Et j'ai toujours eu l'idée d'adapter ou de faire quelque chose avec ces films, une adaptation sur les relations humaines, justement. Ouais, et voilà, je le trouve très touchant, celui-là en particulier, parce que j'ai compris pourquoi j'étais attiré par ces films, enfin.
Bien, Fabien Groslot, je termine avec la musique. Au début, c'était le début, c'est le morceau que vous avez choisi pour terminer cette pop-list. C'est un morceau signé du groupe Luminianas, avec Bertrand Belin et Laurent Garnier. Avant d'écouter le morceau, expliquez-nous pourquoi cette chanson-là en particulier.
Ben j'aime beaucoup Bertrand Belin déjà, et donc je cherchais un titre de sa discographie, et puis j'ai découvert cette chanson-là, donc du coup j'ai écouté l'album, et je trouvais qu'il y avait un film, en fait, ça fait partie de ces albums qui sont, je sais pas, comme Melody Nelson, qui sont des albums films, concept, et puis qui racontent toute une histoire. Donc ça m'a vraiment bouleversé, et comme j'aime beaucoup Bertrand Belin, voilà pourquoi j'ai choisi ça.
Très bien. Eh bien, Fabien Groslot, votre mission d'ambassadeur musical étant parfaitement remplie, je vous propose maintenant d'écouter tous ensemble ce morceau.
«
début. Plus vite, ce fut la suite. Le bois et le couteau, la foule et le poteau, l'autocapote, lécher la route, les murs sont tachés, la porte est arrachée, les nuits sont des nuits d'amour, dur à digérer, un séjour sans secours, au sommet d'une tour penchée. La tranquillité, la journée, le phono abandonné. Je te garde beauté dans l'aridité. Je te garde beauté. Pousse-toi que je m'allonge. La journée m'a tué. La journée m'a tué.
Laurent Garnier, Bertrand Belin, au début c'était le début, pour terminer ce numéro de Pop 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 en compagnie de Fabien Groslot et Jérémy Royer. Voilà, merci à tous les deux.
Merci.
D'être
merci.
Venu nous présenter L'étrange voyage de R.L. Stevenson, qui est édité chez Dargo et qui est plus que recommandé, vous l'aurez je crois compris, par Pop Pop Pop. J'en profite d'ailleurs pour annoncer que Jérémy Royer, vous serez en dédicace les 20 et 21 novembre prochains au salon de la BD de Blois. Voilà. Merci messieurs.
Merci beaucoup.
Merci Charline. Oui, merci. Attendez, je ne vous ai pas encore remercié.
Ah, voilà.
Merci Charline.
Je dis merci par principe.
Mais merci aussi à toute l'équipe de Pop 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 et à Gilles Gaillard. Et quel Gaillard qui était à la technique aujourd'hui. Demain, Étienne de Crécy et la chanteuse américaine Courtney Marie Andrews viennent sur la scène de Pop Pop Pop. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.